chrétien en compagnie d'Idrissa Sidounia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Bonjour, au micro Idrissa Sidounia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Mali, le mouvement de contestation va observer une trêve à l'approche de la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha, appelée Tabaski dans la région, et d'une mission de médiation de 4 présidents d'Afrique de l'Ouest. Dans un instant, ces efforts de médiation avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. En Guinée, reprise hier à Conakry, des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président guinéen Alpha Condé, heurts avec la police. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara. En Côte d'Ivoire, une organisation de la société civile alternative citoyenne ivoirienne, proche de l'opposition, a estimé hier à Abidjan que les conditions n'étaient pas réunies pour les élections apaisées dans le pays, à 3 mois de la présidentielle d'octobre. Sa présidente, Ulchérie Badley, a mis en garde contre une crise électorale. Au Burkina Faso, au moins 2 soldats burkinabés ont été tués et 5 blessés lors d'une attaque hier contre un détachement militaire dans l'est du pays, près de la frontière du Niger, a appris l'AFP de sources sécuritaires. Cette attaque survient après 2 autres perpétrées contre des civils la semaine dernière dans la même région. En République démocratique du Congo, le bilan d'une attaque jeudi contre un village du sud Kivu a été revu lundi à la hausse et s'établit maintenant à 18 civils tués. Cette attaque dans une zone reculée des hauts plateaux de Fizi où un conflit a éclaté il y a plus d'un an a suscité des appels à l'aide de députés provinciaux au gouvernement central. Le conflit oppose des Congolais Tutsi rwandophones, les Banyamulenge, à d'autres communautés locales, Babembe, Bafuliro et Banyundi. En Égypte, les députés ont approuvé ce lundi une possible intervention armée en Libye si les forces du gouvernement de Tripoli, soutenues par la Turquie, continuent leur avancée vers l'est du pays, a indiqué le Parlement. L'accélération de l'épidémie en Afrique, un continent jusqu'à présent relativement épargné, l'épidémie de coronavirus, préoccupe l'Organisation mondiale de la santé. Et pour l'OMS, nous devons tous prendre cela très au sérieux et faire preuve de solidarité. D'autre part, des résultats prometteurs ont été publiés dans la revue médicale britannique The Lancet sur les essais cliniques de 2 projets de vaccins anti-COVID-19. Le premier, réalisé par l'Université d'Oxford, a généré une forte réponse immunitaire dans un essai sur plus de 1000 patients. Le second projet, sur lequel travaillent des chercheurs de Wuhan, en Chine, a provoqué une forte réaction en termes d'anticorps chez la plupart des quelques 500 participants. À Bruxelles, au terme d'un sommet marathon, les dirigeants européens sont parvenus ce mardi à l'aube à un accord sur le plan de relance qui doit permettre à leurs économies de rebondir face à l'épidémie de coronavirus qui, pendant ce temps, a franchi hier la barre des 80 000 morts au Brésil. Le Hajj, pèlerinage musulman auquel participeront cette année seulement 1 millier de fidèles en raison de la pandémie, débutera le 29 juillet, ont annoncé lundi les autorités saoudiennes. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a esquissé lundi un changement de stratégie en défendant le port du masque comme un geste patriotique et il reprend aujourd'hui ses points de presse réguliers sur le coronavirus. Claire-Maurice Dubourg y reviendra plus en détail. Le président Trump a d'autre part menacé hier d'envoyer des forces de l'ordre fédéral dans plusieurs grandes villes gouvernées par des démocrates, dont Chicago ou New York, après de premiers déploiements controversés à Portland dans l'Oregon, pour mettre un terme à des manifestations entachées de violence contre la violence policière et le racisme, mais les élus locaux des démocrates ont demandé le départ de ces forces fédérales, estimant que leur présence jetait de l'huile sur le feu au lieu de résoudre les problèmes. La suite de nos informations, au Mali, pour trouver une issue à la crise sociopolitique que traverse le pays, après plusieurs semaines de contestation du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, quatre présidents africains au chevet du Mali en crise, il s'agit d'Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana, Macky Sall du Sénégal et Mahamadou Issoufou du Niger, président en exercice de la CEDEAO. Les détails avec Kassim Traoré.
Après la visite ministérielle du 18 juin et la médiation de Goodluck Jonathan la semaine passée, le jeudi prochain, quatre chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest se rendront à Bamako pour tenter de trouver une issue à la crise sociopolitique que traverse le Mali après plusieurs semaines de contestation du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit de Mahamadou Issoufou du Niger, non moins président en exercice de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal et Nana Akufo-Addo du Ghana. Les quatre chefs d'État viennent à la suite des pourparlers menés de mercredi à dimanche dernier à Bamako par une délégation de diplomates et d'experts conduite par l'ex-président du Nigeria Goodluck Jonathan. Mais cette mission n'a pas permis d'aboutir à une solution de consensus. Ces recommandations se sont heurtées au refus des dirigeants du M5-RFP. Avant l'arrivée des chefs d'État, les diplomates préparent le terrain. C'est ainsi qu'hier dans la journée, l'imam Mahmoud Diko a reçu les ambassadeurs au Mali de la France, des États-Unis, de l'Union européenne. Lors de cette rencontre, il a déclaré aux diplomates que les portes du dialogue n'étaient pas fermées, mais que la gouvernance au Mali devrait radicalement changer. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, reprise des manifestations ce lundi à Conakry à l'appel du Front National pour la Défense de la Constitution. Il n'y a pas eu de foule dans les rues, mais les heurts entre jeunes dans certains quartiers de la banlieue et les forces de l'ordre ont fait plusieurs blessés. Sur place, notre correspondant, Zakaria Camara.
Le Front National pour la Défense de la Constitution avait appelé les Guinéens à manifester chacun dans ce quartier pour demander le départ du président Alpha Condé. Les forces de l'ordre étaient visibles un peu partout dans la capitale, une présence qui a irrité certains jeunes des quartiers de la banlieue comme à Wanindara, où des violences ont été signalées. Selon cet analyste politique, le FNDC est à la conquête d'une opinion publique qui semble lui échapper. Cabinet Fofana.
Le FNDC est dans une posture de faire valoir un peu de tout son poids pour faire changer un peu la donne, même si on sait qu'il n'a pas su empêcher Alpha Condé d'éditer une nouvelle constitution au mois de mars dernier. En revanche, il appartient au FNDC de quand même prouver cette volonté.
Plusieurs boutiques n'ont pas ouvert ce lundi. Le ministère guinéen de la Sécurité qualifie les troubles de mineurs causés par des loubars. Dans un communiqué, il a dénoncé des tentatives de barricade, le déversement d'huile de vidange sur la chaussée et des jets de pierre. La même source parle d'un agent blessé et des tirs à l'arme à feu par des individus activement recherchés. Cette reprise des manifestations est diversement appréciée par les Guinéens.
C'est le gouvernement qui doit maîtriser tout ce qui est en train de faire là et qui devrait faire tout possible pour que ça change.
Juste des signes de la démocratie, sans manifestation, ça devient de la monotonie. Hélas, il devrait quand même autoriser les manifestations parce que ça fait partie de notre règlement.
Le président Alpha Condé ne s'est pas déclaré candidat à la prochaine présidentielle, mais la nouvelle constitution votée le 22 mars dernier ne lui interdit pas de briguer un nouveau mandat. Zakaria Kabara pour VOA Afrique, Conakry.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump va reprendre dès aujourd'hui ses conférences de presse régulières sur l'épidémie de coronavirus. Il tenait ses points de presse quasi quotidiennement au mois d'avril au pic de la pandémie. Claire Morin-Gibourg.
Je les faisais et nous avions beaucoup de personnes qui regardaient, des audiences records dans l'histoire de la télévision câblée. C'est un très bon moyen d'informer les gens, a déclaré hier le président Trump. Lancé au cours du mois de mars pour permettre à la cellule de crise de la Maison-Blanche de communiquer quotidiennement sur l'évolution de l'épidémie, ces conférences de presse avaient valu au président américain des critiques. Le président américain s'est vu aussi reprocher de récupérer à son profit ses points de presse pour en faire une tribune à quelques mois de l'élection présidentielle du 3 novembre. Monsieur Trump a promis que le retour de ses briefings allait lui permettre d'apporter aux Américains de bonnes nouvelles concernant le développement d'un vaccin et d'un traitement contre le Covid-19.
La minute écho de Libre.
35 milliards de dinars, soit environ 272 millions de dollars, c'est le montant des pertes que devrait afficher fin 2020 Air Algérie. Selon Genafrique, qui cite le nouveau ministre des Finances, cette somme constitue plus du double des pertes déclarées par la compagnie algérienne en avril. Plombée par une situation financière désastreuse, creusée depuis la crise sanitaire du Covid-19, Air Algérie espère un soutien de l'État pour se redresser. 12 000 vols ont été annulés entre mars et début juin et les frontières restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Un résultat net en croissance de 132% à 27,7 millions de dollars en 2019. C'est ce que dégage l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. L'institution poursuit ainsi sur 8 années de croissance ininterrompue. Elle fournit divers produits comme l'assurance et crédit, l'assurance et risque et investissement, l'assurance contre les violences politiques, le terrorisme et le sabotage. La restructuration de la South African Airlines, approuvée par les syndicats, va nécessiter un apport financier de 10 milliards de rands. Selon le ministre sud-africain des entreprises et publiques, Bravin Gordhan, il faudrait encore déterminer comment ce plan de restructuration va être financé. Lourdement endetté et placé en redressement, South African Airlines n'a enregistré aucun bénéfice depuis 2011 et n'a survécu depuis des années que grâce à des perfusions de l'État.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Ballon d'Or ne sera pas attribué en 2020 à cause d'une saison bouleversée par la pandémie de Covid-19. L'hebdomadaire France Football, initiateur du Ballon d'Or, justifie cette décision par l'équité qui prévaut pour ce titre honorifique qui ne pourrait pas être préservé, notamment au niveau statistique et également de la préparation, puisque tous les aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés à la même enseigne, affirme le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré. L'Argentin Lionel Messi et l'Américaine Megan Rapinoe, sacrée en 2019, n'auront donc pas de successeurs cette année. C'est la première fois depuis 1956 que le Ballon d'Or va faire une pause. Ici, en MLS, l'Inter Miami, propriété de David Beckham, est le premier club éliminé du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine de football à huis clos. Après sa défaite dans le groupe A contre New York City FC 1-0, un but inscrit en seconde période par l'international libyen Ismaël Tadjouri Chadri permet à New York City FC de conserver un petit espoir d'accrocher les huitièmes de finale accessibles aux quatre meilleurs troisièmes des six groupes. Pour Miami, nouveau venu cette saison à MLS, c'est en revanche bien fini après ce troisième revers en autant de rencontres. Orlando City et Philadelphia Union se sont déjà qualifiés pour le tour suivant. La MLS a repris le 8 juillet sous un format similaire à la Coupe du Monde avec phase de groupe et élimination directe à Disney World en Floride. En basketball, l'association des joueurs de la NBA va s'associer avec la marque de vêtements de Russell Westbrook pour concevoir des t-shirts comportant des messages de justice sociale pour la reprise du championnat de NBA prévu le 30 juillet à Disney World en Floride. La Ligue a autorisé les joueurs à porter des messages parmi une liste d'une trentaine de slogans tels que Black Lives Matter, Je ne peux pas respirer, Justice, Paix, Égalité, Liberté ou encore Antiraciste. Mais plusieurs joueurs ont exprimé leur frustration à propos de cette liste, comme LeBron James qui a choisi de conserver son nom sur son maillot. D'autres joueurs ont critiqué le fait que la liste n'inclut pas les noms des victimes de violences policières ou que la Ligue ait refusé des expressions telles que réforme de la police ou suis-je le prochain.
Nous repartons sur le continent pour finir avec du rugby en Afrique du Sud. Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'équipe de rugby championne du monde 2019, estime qu'il est temps de changer de comportement vis-à-vis des Noirs. Quand je suis arrivé chez les Springboks, tout se faisait en Afrikaans, entendait langue des descendants des colons blancs, et je ne pouvais pas du tout parler Afrikaans, c'était très dur, a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Pendant le régime de l'apartheid, la minorité blanche s'était approprié le rugby comme son sport, mais depuis l'avènement de la démocratie, la transformation raciale des Springboks s'est faite à marche forcée, à coup de quota imposé par le gouvernement.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, Adama Victogo, secrétaire exécutif du parti présidentiel RHDP, a publiquement soutenu la candidature du président sortant Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Il clame haut et fort que M. Ouattara ait été le choix de la majorité des militants du parti. Pour analyse, Eric Manirakidza, adjoint à Abidjan, le directeur du journal Le Jour Plus, Alexis Tano.
Officiellement, le président de la République, Alassane Ouattara, ne s'est pas prononcé. Nous attendons, quand nous savons que lui-même, par ailleurs, avait déjà déclaré qu'il ne serait pas candidat depuis le 5 mars 2020 devant les deux chambres du Parlement. Il serait pour moi difficile de dire que le président va revenir sur sa décision, surtout qu'il est connu pour un homme qui respecte sa parole. Donc, il attendait.
Mais est-ce que vous pensez que M. Victogo s'est improvisé comme ça, à l'insu du président Ouattara?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut comprendre qu'au niveau du RHDP, il y a quelques soucis quand même de candidature. Et la candidature qui paraît, en tenant compte du temps qui reste quand même pour parler aux élections, qui paraît acceptable et la moins compliquée, c'est celle du plan de la République. Et quand on dit que si le RADP, on peut aller à la recherche d'un candidat, il sait connaître, faire le tapage négatif qu'il y a eu pour, comme pour l'ancien premier ministre, cela va prendre du temps et cela risquerait de constituer un gros risque pour le RADP. Bon, je comprends, c'est pour cela que les cadres se lèvent pour demander au président de la République qui déjà a un bilan qui lui est assez favorable, qui déjà fait le consensus sur l'unanimité au sein du RHDP, d'y aller. Mais cela n'est pas sans conséquence, parce que juridiquement, cela n'est pas bien perçu non plus.
Vous voulez parler de la Constitution?
Oui, absolument. Absolument. Aujourd'hui, l'opposition conteste la légalité d'une troisième candidature du président de la République, d'autant plus que la Constitution, aussi bien l'ancienne que celle qui a été promulguée en 2015, interdit un troisième mandat. Il est difficile pour l'opposition de concevoir que le président de la République partirait pour un troisième mandat. Cela constituerait pour l'opposition et pour les juristes aussi, si on en revient à ce que les rédacteurs de la Constitution, de la première Constitution de la Troisième République avaient déjà annoncé, si on s'en tient bien à leur déclaration, il est impossible, juridiquement impossible, au plan de la République de publier un troisième mandat. Parce que la Constitution, la traité selon l'article 35, la Constitution stipule que le mandat il est de 5 ans de renouvelable pour une fois. Or, le plan de la République vient de boucler ces deux mandats. Le contexte est différent. Le candidat qui avait été préparé, le candidat malheureusement est décédé. Le RHDP est dans une situation vraiment exceptionnelle.
Alexis Tano, directeur du journal Le Jour Plus à Abidjan.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un troisième mandat? Le débat est relancé après la mort du premier ministre Amadou Koulibaly, qui était choisi pour défendre les couleurs du RHDP à la présidentielle d'octobre. Ce, au sein de son parti, qui se prononce en faveur de sa candidature, estime que cela éviterait une bataille de succession. S'il se présente, il fera face à l'ancien président Henri Konan Bédié. Rendez-vous jeudi 23 juillet à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Et l'impasse dans les négociations pour ramener la paix au Mali. la médiation ouest-africaine venue chercher une solution à la crise sociopolitique a avoué dimanche, à l'issue de sa mission, que ses propositions de sortie de crise n'avaient pas été acceptées par le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis plusieurs semaines. Les médiateurs, conduits par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, demandaient entre autres la nomination de toute urgence d'un gouvernement d'union nationale et la nomination d'une nouvelle cour constitutionnelle. Mais ces propositions n'ont pas convaincu les opposants qui ont appelé leurs militants à descendre dans la rue. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Bamako Maliki Diallo, journaliste à l'Indicateur du Renouveau.
Le mouvement du 5 juin estime que la proposition faite par Goodluck Jonathan et la délégation de la CEDEAO ne prend pas largement en compte ses préoccupations. Vous n'êtes pas sans savoir que le mouvement du 5 juin réclame le départ du président de la République, le départ des membres de la Cour constitutionnelle et aussi la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, le président quand même a pris la décision de dissoudre la Cour constitutionnelle. Mais pour l'instant, l'Assemblée reste intacte. La délégation de la CEDEAO est pour l'organisation des élections partielles dans les circonscriptions pour les résultats des dernières législatives qui datent d'avril 2020 sont contestés. Mais pour l'instant, la CEDEAO ne propose pas la dissolution de l'Assemblée nationale.
Quand la CEDEAO ou certains partenaires internationaux disent qu'il n'est pas question d'un changement non constitutionnel du pouvoir, qu'est-ce que vous en dites?
C'est très normal de la part de la CEDEAO et du fait de la communauté internationale, mais la réalité c'est sur le terrain aussi. Moi je pense qu'il faut vraiment engager des véritables négociations avec le mouvement M5 et voir si le président entre guillemets ne peut pas démissionner. C'est clair, ils avaient même renoncé à cela dans leur mémorandum, mais que le président aussi essaye et la communauté internationale de voir réellement la position de l'Assemblée nationale, mais surtout la formation d'un gouvernement. Goodluck Jonathan propose un gouvernement avec 50% des ministres nommés par le président de la République, 30% est proposé par le mouvement du 5 juin et 20% par la société civile. Ça ne passe pas sur M5 qui réclame le poste du premier ministre, et ce premier ministre doit nommer aussi les membres du gouvernement. Je pense que les négociations sont toujours possibles, surtout entre Maliens eux-mêmes. Si la CEDEAO a échoué, il faut que la société civile malienne, qui n'est pas du tout pour un temps, réengage le dialogue entre les différentes tendances. C'est aussi un peu compliqué au Mali, puisque la plupart des organisations de la société civile sont soit avec le mouvement M5, soit avec le régime. C'est ce qui est un peu compliqué aussi, cela.
Donc pour vous, après l'échec de la CEDEAO, il est préférable que les négociations soient menées à l'interne avec purement des acteurs maliens?
C'est ce que je pense. 100% négociations 100% maliennes, parce que c'est un problème interne. Il faut que la société civile malienne s'implique dans la résolution de cette crise politique et de société.
Maliki Diallo, journaliste à l'Indicateur du Renouveau.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Cameroun, la mise en place de la décentralisation évolue trop lentement selon certains maires qui se disent confrontés à des conflits avec des autorités administratives. Les 10 maires se plaignent de l'intrusion des préfets dans leur gestion alors qu'ils ont reçu mandat du peuple. Les explications de Mohamedou Humfa.
Depuis plusieurs jours, la mairie de Ndjombe Pinja, située à une centaine de kilomètres de la capitale économique Douala, fait les choux gras de la presse locale. Le maire, Paul-Éric Kingé, a engagé un bras de fer avec le préfet.
Je viens de déférer le préfet devant le juge administratif parce qu'il a rejeté certaines délibérations qui ont été votées par le conseil municipal de la commune de Pinja.
Le cas de cette mairie n'est pas unique. Après les élections municipales de février 2020, de nouveaux maires, motivés par une loi du 24 décembre 2019, accordant plus d'autonomie aux mairies, essayent de récupérer autant de pouvoir que possible. David Aboumachoui, expert en décentralisation.
Les maires ont l'impression que les services centraux et les autorités administratives prennent le pas de la mise en œuvre de la décentralisation, alors que eux, ils ont un mandat limité dans le temps et qu'ils veulent imprimer leur marque.
Le maire Paul-Éric Ingué demande au préfet de se limiter à vérifier la légalité des actes posés par les autorités municipales.
Il y a également parmi nous les maires qui ne sont pas suffisamment cultivés, qui continuent eux-mêmes à penser que le préfet est fort. Mais lorsqu'on arrive dans devant des maires comme moi je dis, le préfet aujourd'hui est réduit au rôle du contrôle de la légalité des actes du maire. Même lorsque le maire se trompe, le préfet a une seule direction à prendre, celle du juge administratif, qui est donc celui qui va apprécier la faute commise par le maire.
Dans un entretien accordé au journal gouvernemental Cameroun Tribune, le ministre en charge de la décentralisation, Georges Elanga Obam, invite les maires à faire preuve de patience concernant certaines compétences, par exemple celle de la gestion des matières minérales, qui nécessite une réglementation et des compétences très techniques. L'expert David Aboumachoui explique qu'il y a encore certaines zones d'ombre sur les rôles des autorités administratives et municipales.
Il faut quand même que je précise que nous avons un nouveau code et les collectivités territoriales aussi, bien que les autorités de tutelle, sont confrontées d'abord à un problème d'assimilation, ensuite à un problème d'interprétation. Comme nous n'avons pas encore de circulaire interprétative de la part du gouvernement, les maires les interprètent en leur faveur et les préfets les interprètent en leur faveur.
La décentralisation a été inscrite dans la Constitution camerounaise en 1996. Elle vise à transférer plus de ressources et de compétences aux autorités locales. 24 ans plus tard, sa mise en œuvre est inachevée, ce qui est aussi une source de mécontentement dans les deux régions anglophones du pays.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Ici aux États-Unis, les infections et décès dus au coronavirus continuent d'augmenter. Les autorités sont parfois obligées de prendre des mesures qu'elles avaient rejetées auparavant. Marcus Hatton de la VOA fait le point dans ce reportage repris ici par Lionel Gahima.
La Californie, fortement touchée, a décidé de faire marche arrière sur le confinement. Premier État américain à imposer le confinement général en mars, le gouverneur Gavin Newsom a décidé lundi dernier de fermer tous les bars, restaurants, cinémas, zoos et aquariums sur l'ensemble de la Californie. En Floride, la police de Miami Beach a imposé un nouveau couvre-feu samedi soir. Ernesto Rodriguez est porte-parole de la police.
Nous espérons qu'en fermant plus tôt, cela va diminuer les fêtes et permettre aux gens de rentrer chez eux, retourner dans leurs hôtels et éventuellement protéger tout le monde autour d'eux et protéger notre ville.
La démocrate Donna Shalala, représentante de Miami Beach au Congrès américain, appelle à une action encore plus radicale pour stopper la propagation.
C'est totalement hors de contrôle. Nous devons fermer la Floride. Nous avons demandé au gouverneur d'en faire. Et nous lui avons même demandé de faire la chose la plus simple, à savoir exiger le port du masque à tout le monde. Mais il ne l'a pas fait.
L'explosion du nombre de cas a contraint d'autres gouverneurs à reviser leur position sur le port de masque. Asa Hutchinson, gouverneur républicain de l'Arkansas.
Nous avons franchi une autre étape en instituant le port du masque obligatoire à l'échelle de l'État. Ce que je ne voulais pas faire, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire pour soulager la pression sur nos hôpitaux, pour nous donner l'espoir de faire baisser le nombre de cas.
Le président Donald Trump a déclaré qu'il ne va pas ordonner le port de masque dans tout le pays. Dans une interview exclusive sur Fox News dimanche, il a cité des conseils contradictoires qu'il a reçus sur les masques au début de la pandémie.
Tout le monde disait de ne pas porter de masque. Eh bien, d'un coup, tout le monde doit porter un masque. Et comme vous le savez, les masques causent aussi des problèmes. Cela dit, je suis partisan du masque. Je pense que les masques sont bons, mais je laisse le choix au gouverneur.
Pour faire face aux conséquences économiques catastrophiques, le Congrès se penche cette semaine sur un autre programme de relance. Les législateurs sont sous pression d'agir vite avant les vacances du mois d'août dans seulement quelques jours.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui,